In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Faut-il s'imposer des plages créatives? Ma réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Comment créer notre propre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose? Telle est ma quête, et moi j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences, et je pars à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour, et moi j'ai décidé de le faire en créant du contenu et de vous expliquer comment je fais. Cela fait des années que je crée du contenu, j'ai commencé par faire du blog, j'ai fait de la vidéo, maintenant je fais beaucoup de podcasts. Ça fait vraiment 5 ans bientôt que je ferai vraiment du podcast en commençant à faire des épisodes tous les jours. Je m'étais imposé ce rythme de faire des épisodes tous les jours et puis j'ai lancé d'autres podcasts et finalement je fais pratiquement du podcast tous les jours. On peut le dire, hein. Par exemple sur Kimet 42 aujourd'hui je lance un nouveau, cette semaine je lance un nouveau format. Ça fait 3 épisodes par semaine de Kimet 42. Un le lundi, un le mercredi, un le samedi, voilà, c'est un nouveau rythme que je me donne comme ça. Et puis il y a aussi Créer ta vie que vous êtes en train d'écouter. Il y avait une époque aussi, Nouvelle vie, il y a eu à une époque un podcast sur le thé, il y a eu à une époque un podcast aussi sur la création de podcasts. Bon, ça maintenant c'est je fais moi, même si des fois j'ai un petit peu hein, de recommencer certains de ces projets, de prendre le micro. Parce que le podcast, en fait, c'est vraiment ma manière à moi de m'exprimer. L'oral est vraiment la manière à moi de m'exprimer. Mais, je l'ai souvent dit dans ce podcast, il y a quand même un format qui est indispensable maintenant, c'est le texte, c'est l'écriture. Quoi que l'on en dise, l'écriture est importante, que ce soit pour accompagner une photo sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit de la newsletter, ou alors le format livre. Et le format livre, vous savez peut-être, si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez. J'avais écrit un premier livre qui s'appelait « Le contenu minimum viable » qui est sorti il y a 2 ans peut-être. Hein. Il y a eu des ventes tous les mois. Il y a Amazon en auto-édition m'envoie un petit message pour me dire qu'il y a des nouvelles ventes, qu'il y a un virement qui a été fait sur le compte de ma structure. Donc c'est pas des ventes énormes, mais quand on les ajoute de mois en mois, finalement on se dit que s'il avait été édité par une maison d'édition et autres, petit à petit ça approche pas du best-seller encore, mais en tout cas qui fait plus que de beaucoup de livres qui sont édités dans des maisons d'édition et notamment ceux des hommes politiques, mais aussi pas mal de romans aussi, faut le dire. C'est la force de la puissance de ces plateformes comme Amazon, mais il y avait un autre projet de livre et que j'avais prévu vraiment de sortir le 26 juillet. Et cet épisode-là que vous avez écouté, c'est diffusé le 25 octobre, vous voyez, 3 mois après, le livre n'est toujours pas sur Amazon. Vous pouvez ne le cherchez pas, il n'est pas sur Amazon. Et c'est totalement de ma faute, en fait. Hein. Je connais le concept, c'est le mode d'emploi pour devenir champion du monde de son monde. J'ai fait la couverture, j'ai annoncé la date de sortie, le projet annoncé, j'ai même des stories sur mon compte Instagram, la logique est faite, toute la logique est faite. Bon, j'ai un petit peu changé mon plan, j'ai un petit peu réorganisé certains aspects du livre. J'avais au début structuré en quelques grands chapitres et puis après je me suis rendu compte que je pouvais reprendre le format du storytelling du héros et vraiment avec les grandes étapes, hein, parce que j'ai rajouté des éléments dedans, donc j'avais fait des plans cet été après pour modifier, j'ai fait des dessins avec des plans, j'ai décidé aussi que chaque chapitre il y aurait un petit dessin pour l'accompagner. Et puis que dedans, je mettrai des petits schémas, des petits dessins, comme je fais dans ma lettre du dimanche, par exemple. Tout ça, donc, petit à petit, a évolué, c'est sûr. Mais il y a un truc que je n'ai pas fait. Il y a un truc qui est vraiment important. C'est que je n'ai pas travaillé dessus depuis ces derniers mois. En fait, je n'ai rien écrit dessus. C'est pour ça qu'il n'avance pas le projet. C'est-à-dire que si le livre n'est pas sur vos étagères, si vous n'êtes pas sur votre liseuse, si vous n'avez pas pu l'acheter maintenant, si j'ai pas pu vous en parler avant, bah c'est tout simplement parce que je ne travaille pas dessus, je ne l'écris pas en fait, je ne l'écris pas. Alors bien sûr, on pourrait dire c'est ma faute, je me suis j'ai changé mon format, j'ai changé les plein d'éléments qui font que je me suis un peu perdu, ma structure était pas très nette, enfin voilà, tout ça, je peux le dire, je peux dire j'ai cette excuse là. Mais en fait, ce sont que des excuses. La réalité des choses, c'est que je ne prends pas mon clavier pour écrire dessus. Alors j'écris plein d'autres choses, mais je ne prends pas mon clavier pour écrire dessus. Et globalement d'ailleurs, on peut dire que je ne prends pas mon clavier pour écrire autre chose que les descriptions de mes posts sur Instagram, quelques publications LinkedIn, mes newsletters et mes surtout mes textes de qui vont autour des différents podcasts. Mais par exemple, je n'ai pas fait de billets de blog vraiment en tant que tel depuis pas mal de temps et je n'ai pas avancé sur l'écriture de mon livre. Et donc c'est ce qui m'en vient à cette question d'accroche au départ, de dire que est-ce qu'il faut ou pas s'imposer des plages créatives et vraiment s'y tenir. Et la réponse, elle est oui. Elle est oui. Et en fait, j'ai eu un tilt la semaine dernière parce qu'on m'a posé une question dans l'Amsterdam Running Club, la communauté autour de Kevin 42, qui était de me demander si finalement je m'étais imposé des plages des activités sportives. Mais vraiment le terme imposé. Est-ce que je m'étais imposé de bouger tous les jours? Et la réponse est oui. La réponse était oui, quand j'ai commencé à reprendre l'activité sportive, quand j'ai commencé à reprendre soin de mon corps, de manger mieux, de bouger, j'ai commencé en fait à me forcer, à m'imposer de bouger tous les jours, notamment par la marche, d'abord marcher, descendre plutôt du bus, marcher en enregistrant des podcasts d'ailleurs, bon, c'est ce que je faisais, marcher... là où il y avait à un moment donné où j'aurais pris le bus, bah je le prenais plus. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça, puis aller me balader sur les chemins, aller me prendre l'air, me forcer en fait tous les jours à aller me balader, à marcher tous les jours. Et vous savez, c'est les fameux 10 000 pas. On peut en penser ce qu'on veut, est-ce que c'est pipeau ou pas pipeau, mais en tout cas, moi j'étais rentré sur l'esprit de dire il faut que je fasse mes 10 000 pas par jour. J'avais une montre comme ça qui me permettait de suivre. Enfin, d'abord je m'étais acheté un petit capteur Fitbit et puis après j'ai acheté une montre et vraiment, je m'étais imposé ça, et c'est ce qui m'a permis, en fait, bah, de transformer, marcher, bouger, puis faire un peu de vélo, puis rajouter plus de mouvement dans ma journée, était un effort extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique dans l'épisode de la semaine dernière de Kilomètre 42, l'épisode du samedi, c'était un effort extraordinaire, mais qui est devenu mon ordinaire. Et l'extraordinaire, en fait, c'est ce qu'il faut voir qui est important, ce n'est pas quelque chose que personne d'autre ne peut faire, en fait. L'extraordinaire, c'est pas ça. L'extraordinaire, pour nous, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est extraordinaire. C'est en dehors de notre ordinaire. Et si vous voulez écrire un livre, c'est un effort extraordinaire, parce que vous n'avez jamais écrit de livre. Moi, j'ai écrit un premier livre qui est sorti donc en auto-édition, qui est sur Amazon, hein, vous pouvez le chercher, je mets les liens un petit peu partout, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis content des retours, je suis content des ventes qu'il y a eu dessus, mais le deuxième projet que je voulais faire, qui était lié vraiment à mon parcours sportif, mais pas que, qui est lié finalement à la manière dont on se lance dans des projets, comment on a l'étincelle, comment on peut... Moi j'y ajoute des éléments de préparation mentale, j'y ajoute aussi sur la traversée des fameux marées de l'angoisse dont j'ai parlé la semaine dernière. Bah, tous ces éléments-là, finalement, pour devenir champion du monde de son monde, et en fait, vous pouvez devenir champion et champion du monde de votre monde, que ce soit dans le sport, mais vous pouvez le devenir dans le podcast, dans l'écriture, dans la musique, dans tout ce que vous voulez, mais à une seule condition, en fait, c'est de vous entraîner pour le devenir. Et en fait, le tilt, c'est que je me dis, mais mon livre, en fait, je ne le fais pas. C'est-à-dire que je ne peux pas devenir champion du monde de mon monde dans le livre, parce que tout simplement je ne m'entraîne pas, je ne le fais pas, je ne me fixe aucun cadre pour avancer. Et ça, si vous regardez en fait la plupart des auteurs, si vous regardez il y a eu des livres qui ont été faits sur les habitudes créatives des grands artistes, des auteurs, prenez les mémoires de Stephen King, prenez ce qu'ont raconté Picasso, etc. Ils vous diront tous la même chose. Et je reviens sur Orelsan dont je parlais la semaine dernière. Si vous regardez, alors surtout le documentaire, les premiers épisodes et les deux premiers épisodes de la saison 2. Mais si vous regardez la première saison, j'ai envie de dire, vous voyez encore plus l'écriture quotidienne. C'est-à-dire que c'est tous les jours écrire. Et surtout ce que vous voyez, c'est que par exemple, Gringe qui rappait et tout avec lui et que il considère comme étant meilleur que lui, en fait, au niveau de la voix, au niveau de plein de choses. À un moment donné, pendant 2 ans, en fait, c'était arrêté de faire de la musique, de faire des chansons, et que à ce moment-là, c'était compliqué, et qu'il le fait plusieurs fois. On l'avait vu par le passé déjà le faire, et que, lui, vous avez un Rolsan qui s'entraîne tous les jours à écrire, et puis à côté, vous avez Gringe qui, lui, ne s'entraîne plus, et à un moment, le différentiel entre les deux devient énorme, en fait. C'est-à-dire que le talent de départ est peut-être plus important chez l'un que chez l'autre. Et en l'occurrence, Orelsan avait à dire que c'était pour lui, c'était Gringe qui a le plus de talent. L'entraînement fait que l'écart est extrêmement important. C'est-à-dire que entre celui qui va écrire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour et l'autre qui n'écrit pas, qui ne rappe pas du tout, ça devient abyssal, vraiment abyssal. Et c'est valable dans tout ce que l'on fait. C'est valable dans le sport, c'est valable dans la création de contenu, c'est valable dans le podcasting, c'est valable dans la vidéo. Si vous regardez les gens qui sont en tête des vidéos les plus vues sur YouTube, la plupart du temps, ils ont 10, 15, 100 vidéos faites par an. Je dis bien par an qui sont faites. C'est-à-dire que on n'est pas en publication de gens qui publient une vidéo et bam, ça marche. Non, certains des créateurs vidéo qu'on voit le plus ont fait de la vidéo, certains pour tous les jours, pour s'entraîner, ou ils sortent des vidéos tous les 2-3 jours pour avoir un rythme de création. Et si vous, j'ai souvent parlé de la théorie des 10 000 heures, en disant que la théorie des 10 000 heures, c'est une théorie qui n'est pas scientifique, mais qui montre que c'est vrai que si vous avez fait 10 000 heures de pratique de n'importe quoi, c'est sûr que vous êtes beaucoup plus évolué que celui qui n'en fait zéro, ou que celui qui en fait qui a une petite expérience, c'est-à-dire qui a fait 10 heures, 100 heures, etc. C'est un peu comme le parachute, vous savez, il y a des sports, le parachute en fait partie, où on calcule en nombre de sauts, votre expérience en nombre de sauts. Est-ce que tu as sauté une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois? Et l'expérience que vous avez sur 1000 sauts, forcément, elle est logique et est bien plus importante que celui qui a sauté une fois, 10 fois ou 100 fois. Bon. Sur l'écriture de contenu, sur la création de contenu, sur le podcast, c'est exactement la même chose. Moi, avec mes 1000 épisodes de podcast, à peu près, on va dire, environ 1000 épisodes de podcast diffusés, bien entendu que j'ai une expérience qui est beaucoup plus importante que celle que j'avais quand j'avais 0, bien sûr, 1, 10, 15 épisodes, 100 épisodes même, où en fait, je me rends compte que ce que je pensais après 100 épisodes, il y a des trucs qui sont totalement différents dans ma manière d'aborder les sujets, dans ma manière de construire. Quand je fais du coaching en podcast, sur le développement des épisodes de podcast, sur le développement d'un podcast, sur le lancement d'un podcast aussi, parce que j'accompagne une personne sur le lancement sur la création de son podcast, sur la naissance, vraiment, et on pourrait dire même sur, c'est presque de l'accouchement, vous voyez, c'est à un moment donné, c'est de dire, mais à quel moment on va oser ou pas appuyer sur le bouton, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous limite, quelles sont les peurs internes qu'on a en nous, comment est-ce qu'on va passer le cap. Et j'ai pris l'autre jour cette image-là de lui dire, écoute, il y a un moment donné, il faut t'entraîner. C'est-à-dire que quand on écoute d'autres podcasts, on dit, ah, j'aime bien ce qu'a fait telle personne, j'aime bien ce qu'a fait telle personne, etc. On dit, c'est fluide, c'est agréable à être ça, j'aime bien le ton, j'aime bien ça. Mais je me rends compte que finalement, elle fait ça, puis elle fait pas ça. Donc, on regarde un petit peu, on décortique ce que font les autres. Mais il y a un truc qu'on décortique en général pas trop, c'est leur expérience, c'est le nombre d'heures d'enregistrement de podcasts. Plus que le nombre d'épisodes, je trouve que le nombre d'heures est un élément important. Parce que, bon, bien sûr, vous avez le nombre d'épisodes. Le nombre d'épisodes, il est très variable en fait. Il y a des gens qui font, qui peuvent faire des épisodes de 5 minutes et qui peuvent les faire à la chaîne. Et il y a des gens qui vont faire moins d'épisodes mais qui vont faire du contenu plus long. Et en fait, ce qui va demander aussi un travail différent. Mais je pense que le nombre d'heures à parler dans le micro, à s'habituer à parler dans le micro, à avoir la présence, à avoir les respirations, avoir le souffle, avoir tout ce travail-là que l'on peut faire, il est important en fait. Il est important. Et je pense aussi que il se calcule, on peut le calculer en nombre d'épisodes, mais on peut le calculer en nombre d'heures. Vraiment, ça donnera deux indications qui sont totalement différentes. Vraiment totalement différentes. Mais on peut dire tout ce que l'on veut. À un moment donné, pour faire tout ce travail-là, pour avoir tous ces épisodes-là, il faut s'entraîner pour le faire. Et vraiment, moi, dans l'écriture, le constat que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Je ne le fais plus. Je l'ai fait longtemps avant, je faisais. À une époque, tous les matins, je m'installais dans la cuisine, je prenais mon ordinateur portable et j'écrivais. Et c'est notamment comme ça que j'avais écrit le contenu minimum viable. Toute la trame de mon premier livre, je l'avais écrit de cette manière-là. Je l'avais réfléchi par le biais de certains épisodes de podcast. J'avais rassemblé certaines de mes notes d'épisodes de podcast parce qu'il y avait des éléments que j'avais pris, j'avais pioché. Donc, il y a dans le livre certains éléments que j'avais déjà développés dans des épisodes de podcast que j'ai redéveloppés, puis j'ai complété, j'ai mis des citations, j'ai mis des dessins, des schémas. J'ai essayé de mélanger des dessins et schémas, ça fait des déchiens, voilà. C'est... Bref, pardon pour l'imprécision, mais j'ai mélangé tous ces éléments-là, j'ai fait de... pour recréer quelque chose, mais j'ai pris le rythme d'écrire tous les matins, et tous les matins, j'écrivais dans mon journal, tous les matins, aussi, à une époque, je prenais des notes sur qu'est-ce que je vais faire, tous les soirs, je faisais un bilan de ma journée en écrivant. Bref, j'avais ce temps d'écriture. J'ai plusieurs années, j'ai essayé de faire aussi le Nanovrimo, qui commence le 1er novembre, donc qui commence bientôt. Nanovrimo, c'est le but du jeu, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois pour faire une nouvelle. C'est vraiment un moment d'écriture qui est important, moi, sur lequel je n'ai jamais réussi, finalement, à tenir la route, à me fixer, parce que j'ai fait une erreur. Et j'ai fait une erreur qui était importante, et c'est ce que je vais vous expliquer sur la suite. C'est-à-dire que je m'étais fixé le cap de vouloir faire le Nanovrimo. Quand je me suis fixé le cap de vouloir faire mon livre. Mais en fait, ce que je ne faisais pas, c'était de l'intégrer dans mon quotidien. Hier, j'ai diffusé ça hier parce que j'ai enregistré cet épisode le lundi, mais vous l'écouterez le mardi, mais j'avais dans ma lettre que j'envoie les dimanches, qui s'appelle la lettre vieillard galopant, comment devenir vieillard galopant, j'ai fait un petit dessin, j'ai fait un petit schéma, je mettrai ça dans une autre épisode, sur la vous savez, c'est comme un diagramme de Venn, vous savez, vous avez une patate avec nos rêves et puis notre patate avec notre réalité, notre quotidien. Moi, j'ai mis notre quotidien. Et puis, en fait, à un moment donné, il faut que les deux se rassemblent. C'est-à-dire qu'il y a une zone de superposition entre les deux. Et c'est, à un moment donné, la zone de superposition entre les deux, c'est ça qui devient un élément qui va permettre, en fait, de dire mon rêve devient mon quotidien. Pour faire mon rêve, en fait, ça peut être le rêve d'avoir un podcast, ça peut être le rêve d'écrire un livre, ça peut être le rêve d'avoir un blog, ça peut être le rêve d'avoir une chaîne YouTube. À un moment donné, ce rêve-là, vous devez le transformer en un projet réel avec que vous allez pouvoir palper, avec des dates de publication, etc. Mais surtout, le rentrer dans votre quotidien. Et à un moment donné, donc, vous devez rapprocher les deux patates. C'est important de mettre les deux patates. Et là où j'en arrive à s'imposer quelque chose, se forcer à faire quelque chose, c'est en fait de dire que naturellement, ces deux patates ne vont pas se rapprocher par une forme de gravité. Il n'y a pas de gravité, c'est-à-dire que votre quotidien n'attire pas naturellement le rêve. Le rêve, d'ailleurs, il semble tellement difficile, inaccessible, impossible à faire. On se dit, oui, les autres sont capables de le faire, mais moi, je suis pas capable de le faire. Je suis nul, je suis incapable, personne ne va m'écouter, je n'intéresse personne. Oui, en tant que créateur, on se dit ça. Et rappelez-vous, je reparle de Orelsan, mais même Orelsan se le dit. Donc, c'est normal que vous, tous là, qui m'écoutez, si un jour vous le vivez, c'est normal. Je le vis régulièrement, nous le vivons tous régulièrement. Donc, c'est totalement normal. Mais à un moment, il faut se demander comment nos deux planètes, les rêves et notre quotidien, notre réalité quotidienne, vont se rapprocher. C'est-à-dire que il y a un moment, il faut qu'il y ait... ça vienne se mélanger, en fait, pour que ce que l'on rêve, en fait, se concrétise dans notre quotidien. Et c'est comment? Eh ben, c'est en fait par une forme d'autodiscipline. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on s'impose. Quelle est la discipline que je m'impose pour faire rentrer ce rêve dans mon quotidien? Et ça, en fait, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Et ce que je vais vous dire maintenant par la suite, c'est vraiment comment ce projet de livre n'avance pas, parce que finalement, il était surtout un rêve sur lequel j'ai travaillé à un moment donné, mais je ne l'ai pas rentré dans mon quotidien, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon emploi du temps. Et ça, c'est le premier truc qui est vraiment extrêmement important que je dois vous dire, c'est que je me suis fixé maintenant une heure d'écriture par jour globalement, mais notamment sur la première partie, ça va être une heure d'écriture par jour sur ce livre. J'aimerais être à 2 heures, j'aimerais même me dire je suis capable de faire 2 heures. Il y a des jours, c'est facile, il y a des jours, c'est plus compliqué, mais je pars plutôt du principe que je dirais que, comme en course à pied, vous savez, peut-être vous le savez pas, je cours tous les jours, je cours au minimum 10 minutes par jour et 1 miles. Ça veut dire que 10 minutes, 1 mile, c'est je sors courir, je fais le tour du pâté de maison, Et puis des fois, je fais plus. Et puis souvent, je fais beaucoup plus. Il y a des semaines, j'ai couru 100 km. Il y a des semaines, comme la semaine dernière, je cours une trentaine de kilos, enfin 25 km. La semaine d'avant, j'ai couru 30. Souvent, je suis autour de 50 à 60 km. Mais des fois, je vais courir beaucoup plus. Puis des fois, je vais courir moins. Ça va dépendre de mon état de forme, du feeling. Ça va dépendre si j'ai des courses, pas de courses. Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu de tout ça. Et ben là, c'est un petit peu pareil en fait sur mon objectif d'écriture. C'est-à-dire que je vais me mettre dans mon emploi du temps en fait les créneaux sur lesquels je vais aller courir, ça c'est fait. Et puis je vais mettre des créneaux sur lesquels je vais écrire vraiment des plages d'écriture. Je me suis fixé quand même qu'il faudrait que j'écrive une heure par jour. Mais écrire une heure par jour, comme ça, vu globalement, on peut dire ça fait gros quand même. J'arrive pas à placer une heure par jour. Alors comme je le fais sur la course à pied, je me dis je vais placer 10 minutes par jour. Si je place 10 minutes par jour, bon bah j'avancerai pas très vite sur mon bouquin. Mais 10 minutes par jour, finalement, quelque part, si j'écris tous les jours 10 minutes par jour, il y a une chance que ces 10 minutes se transforment en une demi-heure, en trois quarts d'heure. Et donc, la première chose à faire, c'est me fixer dans mon agenda le rendez-vous avec moi-même, de me dire, ce moment-là de la journée, tu écris 10 minutes par jour. Et si certains d'entre vous ont suivi mes formations sur la gestion de l'agenda, et notamment Chaos Planning, et sur la gestion du temps, et celle sur, je parle du time blocking et tous ces éléments-là, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur ce format-là, que j'ai beaucoup travaillé longtemps là-dessus, c'est de dire qu'en fait, je place dans mon agenda des créneaux, tout simplement, où je réserve. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière de... Certains thématisent leur journée en disant, il y a une journée, je vais faire que du podcast, une journée, je vais faire de l'écriture, etc. Moi, j'aime bien, en fait, avoir des journées où il y a un peu de mix. Mais le problème du mix, c'est qu'à force de mixer, il y a des fois des choses qui happent le temps. Par exemple, il y a des journées où je vais faire beaucoup de podcasts et où finalement l'écriture va passer un peu au second plan. Et puis, il y aurait des journées où je pourrais faire beaucoup d'écriture et finalement... Le podcast pourrait passer au second plan. Et moi, j'aime bien, en fait, avoir un peu de mix. C'est-à-dire que il y a des jours où, oui, je vais enregistrer plus d'épisodes de podcast parce que j'ai besoin, en fait, de créer mes contenus, d'enregistrer plus d'épisodes de podcast. C'est un peu le cas, par exemple, de ce lundi. Ce lundi matin, j'ai fait mon podcast privé pour ceux qui soutiennent mes créations sur Patreon et sur l'Amazon Club. J'enregistre cet épisode pour qu'il soit prêt le mardi. Et puis, dans la foulée, j'enregistrerai très probablement la petite intro de mon épisode de Kilomètre 42 de mercredi. Comme ça, c'est fait. Et en fait, sur une partie de ma semaine, en fait, mes épisodes importants du début de la semaine seront faits. Et puis mercredi, j'enregistrerai un nouvel épisode, et puis qui sera diffusé sur la semaine prochaine, et etc. Donc ça, ça peut thématiser, ça peut fonctionner sur la thématisation. Mais je sais aussi que à quel point c'est important de prendre l'habitude. C'est-à-dire que faire une fois quelque chose de temps en temps, c'est totalement différent de faire tous les jours. Faire tous les jours, c'est comme ça qu'on fait naître une habitude. C'est comme ça qu'on se donne un rendez-vous avec soi-même, mais que ça devient plus facile. Parce que si vous faites les choses une fois de temps en temps, chaque chose, chaque fois que vous le faites, en fait, ça devient un événement, en fait. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est ritualiser les choses pour que ça ne devienne plus un événement. Se dire, je me mets à mon clavier pour écrire mon livre, ne soit plus un événement, mais soit mon quotidien. Et quand vous regardez les processus créatifs, vous pouvez prendre Stephen King, vous pouvez prendre, je le répète, hein, tous les grands artistes, qu'ils soient des peintres, des cinéastes, des musiciens, ou qui que ce soit. Il y a un livre qui s'appelle Daily Rituals, qui existe, qui montre, je crois que c'est 60 ou 80 artistes, qui montrent leur quotidien. Leur quotidien, c'est de se dire que tous les jours, ils s'installent à leur bureau, à un endroit où ils savent qu'ils vont écrire, et ils se forcent en fait à rester là pendant une heure, deux heures pour écrire. Et Hemingway le disait très bien, parce que bien sûr, la légende d'Hemingway, c'est de se dire il avait un carnet, il allait écrire à droite, à gauche et tout. Non, la vraie légende d'Hemingway, mais de plein d'artistes, c'est de se dire, ils se mettent devant ce qu'ils avaient un moment pour écrire, et ils se forçaient en fait à sortir des phrases, à avoir des choses. Ils attendaient pas que l'inspiration vienne. Ils créaient en fait le cadre dans lequel il se disait, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais sortir de ça? S'il y a un mot qui sort, tant mieux. S'il y a 10 mots qui sortent, tant mieux. S'il y a 1000 mots qui sortent, c'est encore mieux. S'il y a rien qui sort, au moins, j'aurais fait l'effort d'essayer de faire sortir les choses. Et c'est ce que disait Orelsan dans l'épisode dont je parlais la semaine dernière. Mais vous pouvez regarder plein de créateurs, plein de créatifs, c'est exactement aussi ce qu'ils font. Et ça marche dans la publicité, ça marche dans ceux qui sont dans... J'ai vu des copywriters qui font exactement ça, dont l'habitude de copywriting, les plus grands copywriters américains dont vous parle souvent ceux qui font du copywriting, ont exactement ce rituel. Il y en a un, par exemple, son rituel, c'est tous les matins, il prend son petit déjeuner, et puis il s'installe avec son café à son bureau, et alors à l'époque c'était avec sa machine à écrire, etc. Et il se mettait pendant une heure à une heure et demie en fait à dire « je dois sortir des textes ». Et il s'entraînait à sortir des textes, comme un poète pourrait s'entraîner à sortir des vers, à trouver des rimes, etc. Ben, c'est exactement ça, en fait. Et moi, en fait, je faisais pas. Donc, la première chose à faire, c'est me dire « bah déjà, au minimum, je dois écrire 10 minutes par jour, mais le mieux, c'est une heure ». Donc, je fixe un rendez-vous dans mon agenda, et cette heure, je dois l'utiliser pour écrire quel que soit le résultat. C'est-à-dire que je reviens sur les épisodes que j'ai fait où j'expliquais le premier jet de merde, où j'expliquais aussi, bon, bien sûr, le contenu minimum viable, mais vraiment le premier jet de merde, c'est-à-dire que, en fait, on ne cherche pas à sortir quelque chose de parfait. On cherche à sortir quelque chose. C'est la différence, en fait, entre dire, il faut que tout ce que je fais soit productif. On est dans un monde productiviste. On est dans un monde où on cherche la productivité. Mais en fait, on peut pas avoir la productivité à chaque fois. Et faut se dire un truc, hein, c'est que la productivité, ça cherche dans tout. On cherche à être productif dans notre sommeil. Avoir un sommeil plus réparateur, plus court. On cherche à être productif dans nos repas. Un repas plus efficace, pris plus rapidement. On cherche à être productif dans notre travail, bien entendu. On cherche à être productif dans notre relation amicale, dans nos vacances. Par exemple, regardez les gens quand ils partent en vacances, ils time à la seconde près s'ils doivent visiter, ils doivent visiter ça. On s'est beaucoup moqué déjà des Chinois, des Japonais, des bus, etc., qui se mettaient. Mais tout le monde le fait, en fait. Regardez, tout le monde va faire les photos au même endroit, à la même heure, et les met sur Instagram de la même manière, et puis en montrant pas que, bah, finalement, il y a 50 personnes qui font la queue pour prendre pile la photo qu'il faut au bon moment, mais parce que tout le monde a sur sa liste en disant, faut que j'aille là, faut que j'aille voir la cascade de ça, faut que j'aille voir le lever de soleil de ça, faut que j'aille voir ça, absolument. Et donc, c'est une forme productiviste, en fait, de la vie, de voir la vie. C'est-à-dire de dire que, il y a un moment donné, si je vais à Santorin, par exemple, je vais voir le lever de soleil, ou le coucher de soleil, qui est soi-disant le plus beau d'Europe, hein. Ça, c'est le marketing touristique, hein, aussi qui nous raconte ça. Et en disant, il est à tel endroit, à tel moment, faut que je me place à tel endroit, il faut absolument que je le fasse, sinon j'ai raté mes vacances. Bon, bah ça, c'est une approche très productiviste des choses. Et on est dans le productivisme total. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on est dans ce productivisme. Il faut que je rentabilise chaque heure que j'ai de ma vie, chaque heure de ma journée, etc. Et dans ce productivisme, en fait, on se dit, bah, il faut que ce soit réussi. C'est-à-dire que si je vais voir le lever de soleil ou le coucher de soleil, il faut que le lever de soleil ou le coucher de soleil, il soit beau, en fait. Il faut qu'il soit magnifique. Il faut que j'en profite au maximum. Il faut que je fasse plus de photos, que ce soit parfait, en fait. Mais en fait, non. Le lever de soleil ou le coucher de soleil, vous pouvez vous lever, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez vous lever. Vous allez vous lever pour être à présent à l'heure, mais il peut y avoir un nuage qui passe devant le soleil. Moi, tout l'été, j'ai couru pour aller voir mes levées de soleil. Il y a des jours où le lever de soleil était magnifique, puis il y a des jours où il était pas beau. Bah, tout simplement parce qu'il y avait un nuage qui venait le gâcher, parce que j'arrivais pas au bon moment ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai fait l'effort pour aller voir le lever de soleil. J'ai, moi, ce que je pouvais faire, ce que je maîtrisais moi, et là on revient sur le stoïcisme, c'est de dire que finalement, moi, je fais tout ce qui est en mes moyens, ce que je maîtrise pour être présent là. C'est comme les épisodes de podcast, en fait. Quand je fais mes épisodes de podcast, je ne peux pas maîtriser si vous l'écoutez ou si vous l'écoutez pas. Je peux pas maîtriser ce que vous allez en faire. Je ne sais pas ce que vous faites. Là, vous m'écoutez, mais je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous prenez des notes. Peut-être vous êtes à poil sous la douche, en train d'écouter ce que je raconte. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est tant mieux. Mais qu'est-ce que vous allez en garder? Je n'en sais rien. Statistiquement, on sait que tous les gens qui écoutent des podcasts font généralement quelque chose d'autre. Certains conduisent, certains travaillent, certains courent, certains marchent, certains font la cuisine, certains prennent leur douche, un peu comme on a écouté les radios. Bon, comme je le dis, c'est que si là, je vous demandais de prendre un papier et un crayon, la plupart d'entre vous, peut-être, vous êtes incapable de le faire, parce que peut-être que, bah, il y en a qui courent, il y en a qui, je le répète, que vous êtes en train de conduire. Donc, mais moi, en tout cas, dans ma construction de l'épisode, je peux vous dire, voilà ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter l'épisode en prenant des notes, et à vous de le faire ou pas. Je peux, mais moi, le maximum de ce que je peux faire, c'est ça. Et c'est pour ça que, souvent dans les épisodes, à l'époque, je donnais un petit exercice à faire. Je le fais moins parce que je sais que moi, les épisodes de podcast, si vous me demandez un exercice à faire, l'exercice, en fait, je vais me dire à la fin, oui, bon, attends, il m'a dit ça, faut que je me rappelle, faut que je réécoute, etc. Et ce truc-là, ça devenait plutôt un frein, en fait, ce genre de choses. Donc, dans ces épisodes-là que je vous propose d'en créer ta vie, je suis aussi conscient de ça, c'est-à-dire ne pas aller chercher, de dire, je veux absolument que les gens qui écoutent le podcast aient le résultat, parce que moi, le résultat, je ne le maîtrise pas. Ce que moi, je maîtrise, c'est ma capacité à moi à sortir l'épisode. Et pour en revenir sur l'écriture de livre, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment ce truc-là. C'est de dire que ce que je vais maîtriser, c'est est-ce que je me mets à mon clavier et est-ce que je suis capable de sortir des mots? Est-ce que ces mots seront les bons, les définitifs ou pas? Ça serait une approche productiviste de dire, il faut absolument que à la fin de mon heure, j'ai écrit une page, un paragraphe, un chapitre ou quoi que ce soit, et que ça soit définitif. Non, on peut pas sortir un truc parfait et tout. C'est impossible de sortir un truc parfait du premier coup. Dessus, après, il y a de l'édition, de la relecture, de dire, ça c'est pas bon, ça va. Oui, peut-être qu'il y a des phrases qui seront définitives dedans, peut-être qu'il y a des choses qui seront bonnes, etc. Mais, comme disait Pascal, le plus compliqué, en fait, c'est d'arriver à nettoyer tous les trucs. C'est-à-dire que le cerveau est capable de produire énormément de choses, et puis petit à petit, on va nettoyer pour garder l'essentiel des choses. Et puis, des fois, on va compléter, des fois, on va rajouter des petits détails, des fois, on se dit, ce détail-là ne sert à rien, ce détail-là, il est important, ce détail-là place bien le contexte, il place le cadre, celui-là ne le place pas très bien, j'en ai pas besoin, je peux m'en passer. Donc, faut pas se dire l'heure que j'utilise, il faut absolument qu'elle sorte, qu'elle permette de sortir un chapitre, qu'elle permette de sortir trois pages définitives ou quoi que ce soit, prêt à être publié. Non, c'est utiliser cette heure, quel que soit le résultat. La découper, s'il y a besoin, je l'ai fait sur la course à pied, quand j'ai des grosses journées de course, et par exemple, le mois de janvier dernier, je m'étais lancé dans l'objectif de courir ce qu'on appelle le 496 challenge, c'est-à-dire le 1er janvier, courir 1 km, le 2 en courir 2, le 3 en courir 3, et puis bien sûr, quand vous arrivez au 31 janvier, il faut courir 31 km. Mais il y a des journées, 31 km en courant à 10 à l'heure, il y a un peu moins vite que ça, ça fait quand même plus de 3 heures de course. Il y a des moments où ça passait pas, où je devais aller chercher ma fille à l'école, j'avais des rendez-vous, des coachings, du travail, etc. Bref, donc souvent ce que je faisais, c'est que il y a des jours je découpais. J'ai même fait un petit jeu un jour, je voulais en faire une vidéo, mais ça, la vidéo était vraiment nulle, j'ai tout balancé, où j'avais découpé ça en créneaux, en fait. Je courais 3 km toutes les heures pendant toute ma journée. Donc j'amenais ma fille à l'école, j'allais courir 3 km, je rentrais travailler, je courais 3 km, parce que je devais faire 18 km dans ma journée. Et à la fin de la journée, j'allais la chercher, après avoir couru mes 18 km, mais en l'ayant découpé en plein de petits morceaux. Bon, ça je pourrais le faire aussi sur l'écriture si je voulais. Bon, c'est un petit peu trop morcelé finalement, sur la concentration, c'est pas très bon. Mais par exemple, me dire je fais une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, oui, ça je peux bien sûr le faire. Tant que je fais mon heure. Et puis, si je peux en faire plus, si je me sens bien, si je trouve que j'avance bien, si je trouve que j'ai des idées, ne pas hésiter à l'allonger, mais ne jamais la rétrécir. C'est-à-dire, vraiment partir sur le principe de dire, je commence mes 10 minutes, et puis je vais arriver à faire 10 minutes par 10 minutes, mais je vais arriver à faire une heure au global. Je vais arriver à la faire mon heure, c'est mon objectif, c'est d'arriver à faire mon heure. Peut-être que des fois ce sera un peu compliqué et je me dirais je pars pour 10 minutes et puis on va voir ces 10 minutes si elles sont ensemble en 20 minutes, une demi-heure, et puis si ça fait qu'une demi-heure, je referai un peu ça 10 minutes un peu plus tard, et puis un petit peu je pourrais morceler comme ça. Mais le but du jeu pour moi, c'est d'abord d'arriver à placer, certains jours je place des heures dans mon emploi du temps, et je dis cette heure-là je vais l'utiliser pour écrire mon livre. Si je vois que ça passe pas, je me dirais au moins j'en place un bout, je découpe en petits morceaux, mais toujours dans ma journée, c'est de faire vraiment mon heure d'écriture. Et c'est ce que je conseille, quel que soit le média que vous faites. Le conseil que je donnais l'autre jour en podcasting, c'est de dire que l'important, finalement, c'est pas de publier l'épisode de podcast. L'important, au départ, c'est d'enregistrer. C'est de prendre l'habitude de parler dans le micro. C'est pourquoi j'ai commencé, moi, en faisant du podcast quotidien, c'était pour vraiment prendre l'habitude de parler dans le micro tous les jours, pour que ça devienne une seconde nature, que appuyer sur le bouton rouge enregistrer devienne tellement simple que je n'ai plus besoin de réfléchir à appuyer sur ce bouton rouge, que ça devienne une habitude, que ça devienne ma seconde nature, et que finalement ce qui était extraordinaire au départ, appuyer sur le bouton rouge, devienne ma nouvelle normalité, mon nouvel ordinaire. Pour moi, appuyer sur le bouton rouge d'enregistrer un podcast n'est plus extraordinaire. Avoir un invité dans mes podcasts n'est plus extraordinaire. Publier 3, 4, 5 épisodes par semaine de podcast n'est plus extraordinaire. C'est devenu un ordinaire. Mais pour que ça devienne un ordinaire, il a fallu d'abord que je m'entraîne, que je le fasse d'abord tous les jours quand j'ai commencé à faire mon podcast. Et si je me mettais en publication tous les jours les premiers épisodes, c'est aussi pour me forcer, pour donner un rendez-vous, pour me forcer à dire tous les jours, je veux faire du podcast tous les jours pour m'entraîner, pour faire un stage extrêmement rapide et m'entraîner à le faire beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment un élément qui est pour moi fondamental. C'est-à-dire que quel que soit le projet, vous devez faire rentrer votre projet dans votre quotidien. Ce qui est au début, ça va être un effort extraordinaire, mais vous allez le faire rentrer dans une nouvelle normalité en utilisant peut-être des petites supercheries pour votre cerveau, peut-être des petites astuces pour le faire, en vous disant bah non mais ça je me récompense après en mangeant un carré de chocolat, je vais faire dans un endroit qui me plaît plus. Par exemple, il y a l'astuce. Moi, je sais que combien de fois j'ai écrit de nombreux textes quand je faisais mes cours à Vichy. J'adorais, j'allais boire un café dans un café qui faisait un très très bon café, qui avait une ambiance spéciale. Je savais que je pouvais me mettre à une table en particulier ou tel canapé. Et alors, je savais que si je me mettais sur un canapé, j'étais plutôt parti pour regarder les réseaux sociaux. Mais que si je me mettais à la table avec mon ordinateur, que je commençais à taper, et ben tout d'un coup, je me rentrais dans le truc en disant je vais écrire ça, je vais écrire un billet de blog, je vais avancer là-dessus, je vais faire mes notes d'épisodes de podcast, j'avançais vraiment, vraiment là-dessus. Peut-être ça peut être votre supercherie. Il y a une deuxième supercherie, tiens, que je suis en train d'utiliser, j'ai acheté un petit clavier portable pour mettre sur mon iPad, pour dire que justement le soir, si je n'ai pas écrit sur ma journée, et le soir j'ai envie d'écrire, eh ben je peux le faire en étant par exemple dans mon canapé, l'iPad sur les genoux, le clavier et tout, que je peux prendre quelques notes et que je peux avancer un petit peu comme ça, si je veux rester par exemple sous mon plaid, plutôt dans... Parce que oui, il y a des moments, même si vous avez l'impression que je cours tout le temps ou que je bouge tout le temps à droite à gauche, hein, c'est ce que certains peuvent avoir l'impression, non, il y a des moments aussi où je suis sur mon plaid, où je suis sous mon plaid, hein, tranquillement, comme on pourra pas mettre le chauffage en plus... Bon, on va se mettre sous le plaid. Et où je peux prendre ces temps-là pour écrire. Et puis, des fois, souvent, je prends pour lire et regarder une série. Et souvent, en lisant, en regardant une série, il y a des idées qui viennent. Et à ce moment-là, c'est de me dire, l'idée vient, je vais la noter tout de suite. Et s'il y a plus qui vient, je vais tirer le fil. Mais j'avais un frein pour ça. C'est-à-dire que mon ordinateur, j'ai plus d'ordinateur portable. Hein, j'ai l'ordinateur fixe en bas. J'ai plus d'ordinateur portable. Et donc, je faisais sur l'iPad. Et puis, je trouvais juste que l'écriture sur iPad, le clavier, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et puis, des fois, je suis pas sûr quelle touche j'appuie, ça efface une partie, ça avance pas comme je veux et tout. Et donc, je m'étais rendu compte pendant l'été que si je branchais un clavier sur l'iPad, ça devenait une machine à écrire qui était beaucoup plus intéressante pour moi. Mais par contre, j'ai pas envie de trimballer un clavier, vous savez, faire l'appareillage des claviers, etc. J'aime bien que mon clavier de l'ordinateur d'en bas reste en bas. Et j'ai pas envie de trimballer mon clavier une fois en bas, une fois en haut. Donc, j'ai décidé que j'allais avoir en haut un clavier dédié à mon iPad. Et donc, comme ça, en fait, je me suis enlevé un frein. Je m'enlève tout simplement un frein. C'est de dire, j'ai une idée, j'ai envie d'écrire, j'ai des trucs qui viennent, tac. Le frein de « Ah, j'ai pas envie de taper sur le clavier de l'iPad, c'est pas pratique, ou il faut que j'aille chercher un clavier, ou, hop, j'ai plus, hop, dans mon pouf, j'aurai mon clavier, je sors, tac, je peux écrire mon truc. » C'est-à-dire que j'enlève des freins. Comme j'ai enlevé un frein sur le podcast, qui était de dire, si j'ai des idées de podcast, si j'ai envie de parler de certains trucs en marchant, je peux le faire en marchant. Je prends un micro-cravate, je le fais en marchant avec mon téléphone. J'ai fait beaucoup d'épisodes en marchant, avec un micro-cravate, avec un micro-casque, parce que ça a enlevé une contrainte. J'avais enlevé la contrainte de dire je dois absolument être à mon bureau pour enregistrer un épisode de podcast. C'est ce que je dis souvent aux débutants d'ailleurs, c'est en disant finalement peut-être que enregistrer un épisode de podcast, si vous mettez dans un bureau face à un gros micro, ça devient intimidant parce qu'il y a les logiciels et tout. Alors que la même chose, vous pourriez le faire devant un feu de bois avec des amis, vous pourriez le faire très simplement en leur parlant et vous rendrez compte que c'est la même chose. Vous mettre à la terrasse d'un café et faire comme si vous parliez au téléphone, mais en fait parler dans votre dictaphone et enregistrer quelque chose peut devenir extrêmement simple et vous peut vous donner l'habitude de parler finalement à personne. Parce que la difficulté dans le podcast, c'est de se dire, je vais parler à qui, mais je parle à personne. Là, je suis devant mon ordinateur, je vous parle, mais en fait, je parle à personne devant moi. Et tous les exercices que je propose dans certaines formations, c'est de se dire, mais imaginez que vous parlez à quelqu'un. Imaginez. Mais au début, c'est pas si simple que ça. Alors, on peut mettre une photo, on peut dire, tiens, je parle à la photo, je parle au petit canard jaune. Si vous avez suivi un épisode de podcast où je disais qu'on peut parler à un petit canard jaune, etc. Certains ont trouvé ça totalement débile. J'ai pris un commentaire sur YouTube un peu dévastateur, un peu, me disant, mais c'est un truc quand même en débile. Mais la personne qui ne le fait pas ne peut pas comprendre ce que c'est. La personne qui ne s'est jamais retrouvé face à son ordinateur en disant et son micro en disant je dois enregistrer un épisode de podcast mais je sais pas à qui je parle, je sais pas comment je fais, j'arrive pas à le faire ou quoi que ce soit, n'a jamais vécu ce moment de ce qu'on appellerait un peu la page blanche. Mais si vous devez publier vos épisodes de podcast tous les jours, si vous devez les publier toutes les semaines et que il y a un moment donné vous devez être dans le résultat, il faut trouver il faut trouver des petites supercheries en fait. Et ces supercheries, ça peut être d'avoir la photo de quelqu'un qui dit « je m'adresse à cette personne-là ». Ça peut être d'avoir son petit canard en plastique, vous savez, les petits canards de bain, etc. Pourquoi pas ? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent fonctionner. Mais Mais ce que je voulais vous dire en bilan de cet épisode, c'est que vous devez faire l'effort de faire rentrer le truc qui est peut-être pas très naturel au départ, parce que c'est pas naturel. Faire un podcast, faire de la vidéo, c'est naturel pour personne au départ. C'est un effort extraordinaire. Vous devez faire entrer, en fait, dans votre quotidien, en le rendant ordinaire. Et pour ça, en fait, il faut se l'imposer. Et c'est de l'autodiscipline. Il faut se discipliner, il faut s'obliger, en fait, à faire ces actions-là, de le faire régulièrement et le plus régulièrement possible pour que ça devienne une nouvelle nature, votre seconde nature, que ça devienne ordinaire. Et des fois, il y a des habitudes qu'on finit par perdre. Celle d'écriture, d'écrire pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que là, à partir de maintenant, je remets en place les éléments pour réécrire tous les jours, pour écrire d'abord pour ce livre, mais une fois que je l'ai fait, que ça deviendra mon nouvel ordinaire de le faire. Par exemple, je cours depuis 455 jours ou 456 jours, je cours tous les jours. Bon, au départ, c'est pour faire 30 jours et puis après un peu plus longtemps, etc. Bon, maintenant, c'est mon nouveau quotidien. À partir du moment où c'est devenu mon quotidien, j'ai pu faire mon défi du 496 challenge, j'ai pu courir mon 24 heures, je peux préparer des nouvelles courses très facilement parce que ça m'ouvre de nouvelles perspectives. Une fois que j'aurai pris cette habitude d'écrire tous les jours, ben après, ça m'ouvrira de nouvelles perspectives. Une fois que j'aurai sorti le fameux bouquin que j'ai envie de sortir, pourquoi pas en faire un troisième? Et puis, enfin, oui, ça sera un troisième. Et puis, pourquoi pas réécrire des billets de blog plus longs? Pourquoi pas utiliser ces temps-là, ces nouvelles capacités, ces nouvelles compétences à écrire, ou en tout cas les réintégrer, pour faire d'autres projets, qui seraient peut-être un e-pub, qui seraient peut-être des formations écrites, qui seraient peut-être des mails différents, peut-être un nouveau format de newsletter. Enfin, bref, à partir de là, en fait, du moment que ce nouvelle habitude, que cette nouvelle compétence s'intègre, on peut construire des choses à partir de ça, on peut faire des nouvelles choses, on peut imaginer plein de choses. Mais pour pouvoir le faire, il faut passer par la base, c'est-à-dire s'imposer en fait des moments, se dire bah oui, peut-être que avant, bah j'avais une routine qui était de faire ça, 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 tout. Et bien ça, je peux peut-être le remplacer. Cette demi-heure que je passe par exemple à regarder des vidéos sur TikTok, je peux la remplacer par une demi-heure d'écriture de mon livre très facilement. Et si cette demi-heure, bah je vais, moi, la transformer plutôt en une heure, si je peux. Et si je peux pas, ben, il y a peut-être à un moment donné une autre habitude dans la fin de la journée que je vais pouvoir remplacer elle aussi par une autre demi-heure et ça me fera une heure. Et petit à petit, je vais avancer comme ça. C'est vraiment l'esprit de ce que je veux vous dire. C'est que combien je vois de personnes qui n'avancent pas sur leur projet. Et l'une des personnes que je vois qui n'avance pas sur son projet, en l'occurrence, je la vois tous les jours dans le miroir, c'est moi, en me disant, mais tu as promis ce livre pour une date, tu as annoncé, j'ai mis des couvertures, il y a des gens qui étaient prêts à l'acheter, qui attendent, etc. Et à un moment, en fait, je me suis laissé embarquer dans une spirale négative, de dire « Ah non, mais ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça va pas. » Et puis surtout, en fait, de ne pas mettre le temps, les moyens, le moyen minimum que j'avais, hein, moyen minimum que j'avais, c'était de prendre le temps de dire « Je dois écrire dessus. » Que ce soit bon ou mauvais n'est pas le problème. Quel que soit le résultat, je dois écrire dessus. Et je dois vraiment sortir quelque chose. Je dois sortir quelques mots, quelques idées, réorganiser les trucs, écrire des... Avancer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien entendu, à me dire ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez venir m'envoyer un petit message. Vous pouvez ce soit sur les réseaux sociaux, Bertrand Soulier, à peu près partout. Hein, voilà, à peu près partout. Et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.